Eh bien, écoutez, rebonjour. Je ne vais pas me représenter. Je vais donc ouvrir cette journée en vous présentant, pour ceux qui éventuellement ne le connaîtraient pas, Dominique Arrault, inspecteur général des bibliothèques, à qui, en accord avec la FIL, nous avons demandé d'introduire cette journée, en particulier en lui demandant de mettre en regard les pratiques d'évaluation de la lecture publique à l'étranger et les habitudes françaises, ceci afin d'ouvrir notre esprit dès le matin. Une petite précision, Dominique Arrault est tenu de nous quitter en cours de matinée. Donc, si vous souhaitez lui poser quelques questions, je me propose de laisser 6-8 minutes, grand maximum, et vraiment grand maximum, sinon je vais me faire taper sur les doigts, à l'issue de son intervention qui va durer une petite demi-heure, afin de laisser la porte ouverte à vos différentes questions. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole.
Merci. Je vous remercie de me permettre de m'abstraire pendant quelques moments du jury du CAPES de documentation. Je vous remercie de cette petite période de vacances tout à fait intéressante. J'évoque peut-être un souvenir personnel qui est lié à ce lieu, au Centre Pompidou et à la BPI, auquel nous sommes tous attachés, pour rappeler que le temps passe et qu'il y avait eu en 1992, dans la grande salle, ce n'était pas dans la petite salle, un colloque qui s'appelait « Évaluer pour évoluer ». Et à l'époque, je représentais l'administration centrale et je crois que j'avais passé un assez sale quart d'heure. C'était la confrontation classique que connaissent mes dignes successeurs entre les praticiens de terrain et puis l'administration centrale qui essaie de développer, comme on l'a dit à l'instant, des outils d'évaluation. Enfin, c'est un souvenir un peu amusé pour dire que un certain nombre d'années plus tard, le sujet est toujours d'actualité et reste évidemment une préoccupation importante. Deux mots peut-être sur le d'où je parle. Mon expérience personnelle par rapport à ces questions à la fois statistiques et d'évaluation, qui est une expérience tout à fait pragmatique. Je ne suis pas du tout un spécialiste forcément de ces sujets. J'ai eu la chance de travailler à la direction du livre avec Bertrand Calanche sur la refonte, une première refonte des enquêtes statistiques qui s'était arrêtée. D'ailleurs, il y a eu, ça on aura peut-être l'occasion d'en reparler, ça c'est toujours un problème dans la construction statistique d'avoir des intermittences ou des longues périodes pendant lesquelles il n'y a pas de publication de résultats ou à la limite où la collecte se stoppe. Et donc, on avait eu l'occasion de retravailler sur les formulaires, qui étaient à l'époque des formulaires papier encore, de collecte des statistiques des bibliothèques publiques, autant pour les bibliothèques municipales que pour les bibliothèques départementales, où pour la première fois, on s'était efforcé de prendre en compte ce qu'on a évoqué, ce que Guénassiat Ferrand a évoqué à l'instant, c'est-à-dire vraiment la question du réseau départemental. Une deuxième expérience qui a été intéressante pour moi et qui m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de limites, c'est le travail que j'ai pu faire quand je travaillais au Conseil supérieur des bibliothèques et où, à au moins deux reprises, dans le rapport annuel du Conseil, on avait tenté de publier des comparatifs statistiques internationaux, aussi bien sur les bibliothèques publiques que sur les bibliothèques universitaires, et où j'avais pu prendre la mesure, d'une part, de l'absence de chiffres concernant un certain nombre de pays, du fait que les pays ne comptaient pas les mêmes choses, ni de la même façon, et qu'évidemment, ce travail comparatif était évidemment assez illusoire, au fond. Et l'inspection générale des bibliothèques, à laquelle j'ai la chance d'appartenir, vient de publier, a publié il y a quelques mois, un rapport tout à fait important, produit par mes collègues Suzanne Jouglet et Claire Vessat sur les comparaisons, sur un ensemble de comparaisons internationales touchant, là, cette fois-ci, aux bibliothèques académiques, aux bibliothèques universitaires, et où là, on ne s'est pas mis, je dirais, dans l'impasse de faire des comparaisons pays à pays, mais plutôt de choisir une cohorte de bibliothèques de taille à peu près équivalente, ou en tout cas ayant des correspondances en quelque sorte les unes avec les autres. Et là, d'un seul coup, on s'aperçoit qu'en définissant de façon un peu sérieuse, un peu scientifique, un échantillon, on commence à avoir un travail comparatif qui produit des résultats d'analyse intéressants. Et puis, bien sûr, mon expérience toute récente, Dans un colloque, quelqu'un m'a présenté, je crois que c'était Sophie Danis à Nancy, en disant le jeune inspecteur général Dominique Arros, qui m'a fait évidemment très plaisir. Bon, j'occupe ses fonctions depuis le mois de février. Et là aussi, je suis confronté, comme mes collègues, comme vous tous finalement, à la fois aux richesses et aux limites des outils statistiques dont nous disposons aujourd'hui pour construire des analyses, pour construire des évaluations qui sont liées évidemment à notre pratique professionnelle. Alors, peut-être une première remarque qui peut paraître provocatrice, mais qui ne l'est pas, qui est simplement un constat lucide. On a souvent tendance à opposer statistique et évaluation. L'évaluation étant, au fond, parfois présentée comme une manière un peu moderne d'envisager les politiques publiques, etc., ce qui est exact. Les statistiques étant le versant un peu traditionnel, légèrement ringard de l'approche du fonctionnement des établissements. En réalité, en dépit des efforts de tous, la question des statistiques en France n'est pas entièrement réglée. Moi, j'ai pointé un certain nombre de difficultés méthodologiques ou de constats un peu négatifs. D'abord, l'incertitude du corpus, si nous parlons uniquement, par exemple, des bibliothèques municipales, cet écart considérable, y a-t-il un peu plus de 4000 bibliothèques municipales, comme on nous le dit assez régulièrement à partir des enquêtes conduites par le SLL, ou y en a-t-il 17 000 si on prend en compte, je dirais de façon plus ténue, les différents réseaux départementaux? Il y a déjà une première incertitude. Que compte-t-on, de quelle manière et à quel corpus arrive-t-on? Une autre préoccupation, on rappelait tout à l'heure très, très opportunément que remplir le questionnaire statistique annuel est en quelque sorte une obligation réglementaire liée au contrôle technique. On fait l'expérience très régulièrement que cette obligation n'est pas respectée. J'étais en mission il y a quelques semaines où j'ai vu deux bibliothèques départementales, donc quand même des établissements d'une certaine taille, qui ne remplissent pas cette obligation et qui étaient d'ailleurs tout à fait sur place, bien incapables de me donner des documents convaincants dans ce domaine. Donc cette non-réponse est quand même quelque chose de préoccupant. Autre biais, c'est le manque de fiabilité des réponses. On a tous discuté avec des collègues qui vous disent « Ah, tel indicateur, c'est un peu au doigt mouillé, ça fait des années qu'on n'a pas compté ceci ou cela. » Donc on est devant, effectivement, des résultats qui ne sont pas tous fiables. Ensuite, ça, j'en reparlerai, c'est la question, au-delà de l'obligation réglementaire, la question de la finalité de la collecte, qui mériterait sans doute, j'en reparlerai, d'être redéfinie et qui, mon avis, provoquerait certainement de meilleurs taux de réponse, ou en tout cas des réponses plus convaincantes. Un des autres biais sur la question des statistiques, j'en parlerai à propos de quelques exemples internationaux, c'est la confusion constante entre moyenne constatée et norme. La moyenne constatée peut très bien ne pas être satisfaisante en termes de fonctionnement des établissements, mais à force de la présenter comme un chiffre de référence, on a tendance à confondre avec une norme. Alors faut-il effectivement, et c'est une des questions qui traversera sans doute cette journée, se fixer des objectifs, comme l'ont fait certains pays étrangers, c'est aussi une question qui est posée. J'en ai dit un mot à l'instant, la question des séries non homogènes, le fait que les établissements ne remplissent pas toujours forcément leurs obligations tous les ans. Donc on a des corpus qui sont incertains d'une année à l'autre et il peut y avoir dans l'histoire administrative à certains moments une interruption de publication des résultats ou à la limite ça aura pu se produire une interruption de collecte ou en tout cas un petit déficit dans ce domaine. Et puis enfin un dernier point, le devoir qu'on a collectivement en tant que responsable de fournir des publications très facilement utilisables, et j'aurai l'occasion de revenir sur ce point. Donc pour dire que cette question des statistiques n'est sans doute pas entièrement réglée, et au fond, cette constatation est plutôt stimulante en début de journée, ça montre qu'effectivement on a une marge de travail qui est importante. Un autre point qui me paraît important, c'est vraiment de plus en plus de contextualiser les données que nous récupérons, aussi bien des bibliothèques publiques que des bibliothèques du monde universitaire, et de se dire que les seuls chiffres des bibliothèques revêtent un intérêt qui est limité à l'objet lui-même, mais que ces chiffres, d'un seul coup, prennent un sens par des croisements. Je vais prendre quelques exemples. Tout l'intérêt que vous connaissez des publications, de la publication régulière par le ministère de la Culture, de l'enquête pratique culturelle des Français, où d'un seul coup sont mises en perspective des données venant de différents secteurs culturels, de différents secteurs artistiques, et où effectivement ces données peuvent éventuellement se répondre et définir des profils d'usagers des services culturels ou de la pratique culturelle, de la pratique amateur, de la pratique créatrice. Et donc le croisement de données est évidemment dans ce domaine très très important. Une enquête beaucoup plus ancienne, mais qui avait été, je crois, assez féconde et qui mériterait aussi d'être relue et pourquoi pas réactualisée, c'était l'enquête qui avait été faite au moment des grands débats sur la question du droit de prêt, sur l'articulation entre achat en librairie, emprunt en bibliothèque, où là, effectivement, on avait croisé des ensembles de données qui portaient sur des publics souvent voisins, mais ce croisement de données avait été là aussi fécond. Je prends juste un exemple. On peut bien sûr envisager la situation du réseau de lecture publique d'un secteur donné. J'étais il y a quelques jours en Guyane, pour effectivement faire un bilan de la lecture publique dans ce territoire, dans ce département d'outre-mer un peu éloigné de la métropole, où j'ai pu constater effectivement l'existence d'un réseau de lecture publique, ce qui est plutôt encourageant, mais aussi bien sûr les problèmes de moyens de fonctionnement, les écarts qu'on peut constater avec les moyens de la métropole. Et un peu par le hasard des lectures, il se trouve que j'ai eu devant les yeux la statistique que produit très régulièrement le ministère de l'Éducation sur la réussite au baccalauréat. Or, qu'est-ce qu'on constate effectivement en 2009? C'est qu'effectivement, la Guyane est dans ce domaine le dernier département français. On dit qu'en moyenne, une tranche d'âge, c'est à peu près 60%, on va dire 60% d'une tranche d'âge qui réussit effectivement le baccalauréat. Le chiffre pour la Guyane doit être d'à peu près 36%. Et le taux de réussite qui est en moyenne entre 85-90% pour la métropole est effectivement de 70% pour la Guyane. D'un seul coup, en croisant les chiffres, on s'aperçoit qu'il y a tout un ensemble d'indicateurs qui sont des indicateurs d'alerte, au fond, sur une rupture d'égalité entre citoyens français, et qu'effectivement ça peut conduire à imaginer des dispositifs de soutien, de rattrapage, de remédiation importants. Mais le fait de croiser à la fois ces données bibliothèques et ces données sur la réussite scolaire, ça prend un sens évidemment tout à fait important. De même, dans le secteur universitaire, il y a effectivement des enquêtes qui pourraient être tout à fait intéressantes de croisement, par exemple, sur les services offerts par les services communs de documentation et puis le taux d'échec universitaire dans les premières années d'enseignement supérieur, L1, L2. Et puis, à l'autre bout, peut-être en termes de recherche, le nombre de thèses soutenues, la durée moyenne de préparation des thèses, etc. Donc, je crois que c'est important, dans ce début de journée, de se préoccuper aussi du lien entre les chiffres qu'on peut collecter en matière de bibliothèque et puis d'autres données statistiques qui éclairent ou qui amodinent d'une certaine manière les résultats qu'on peut lire ou qu'on peut obtenir. Les objectifs, je crois que c'est effectivement très très important. J'avais donné comme sous-titre à cette communication, vous l'avez vu tout à l'heure, pourquoi faire et comment faire, mais pourquoi faire, quels objectifs? Et ces objectifs sont parfois un peu contradictoires. Et que veut-on faire effectivement des chiffres qu'on collecte? Je dirais qu'il y a un premier échelon en termes d'objectifs qui est l'échelon descriptif et qui est tout à fait essentiel. Être capable de dire, que les pouvoirs publics soient à un moment donné capables de dire à l'échelon internationale, nationale, régionale ou locale, quelle est la situation très concrète des bibliothèques dans un territoire donné, c'est tout à fait essentiel et on n'y est pas encore totalement. Hein, ce que je disais tout à l'heure, il reste encore des zones d'ombre, il reste encore tout un ensemble de choses à faire. Ces éléments descriptifs peuvent aussi donner lieu à des éléments comparatifs à partir de données quantitatives, bon, dans le jargon franglais, le benchmarking, dans le globish habituel, mais cette manière d'étalonner en quelque sorte les établissements les uns par rapport aux autres est effectivement tout à fait précieuse et ce premier niveau de collecte, ce premier objectif est intéressant. Il peut y avoir des objectifs un peu classificateurs ou hiérarchisants ou un peu sur le mode des classements donnés aux écoliers ou aux lycéens. C'était ce qu'avait pratiqué Livre Hebdo pendant un certain temps avec ce classement des bibliothèques municipales, dont j'ai toujours, à titre personnel, pensé qu'il reposait sur un certain nombre d'impostures méthodologiques, parce qu'on comparait effectivement des établissements qui n'étaient pas forcément comparables, et justement sans tenir compte d'un certain nombre d'éléments de contexte. Cela dit, ce classement avait le mérite d'exister. Il avait le mérite, en tout cas, de mettre l'accent sur l'activité des bibliothèques dans le monde du livre. Et c'était tout à fait intéressant. Et donc, effectivement, on pourrait très bien utiliser ces données pour... on en reparlera d'ailleurs à propos de quelques exemples internationaux tout à l'heure pour faire des classements à la fois de bons et de mauvais élèves. Ces chiffres sont aussi souvent sollicités. Et bon, c'est un exercice qu'on pratique assez volontiers à l'Inspection générale des bibliothèques pour des fins apologétiques. C'est-à-dire que le fait de donner à un président d'université ou à un maire ou à un président de conseil général la capacité de se comparer avec des établissements, avec des collectivités ou des services plus performants, est un élément qui peut être un élément de discours positif et stimulant. On l'a dit en début de séance, effectivement, cette collecte peut avoir des objectifs à la fois économiques et politiques, au meilleur sens du terme, bon, tout ce qui relève de l'efficacité, de l'efficience des politiques publiques. Et c'est effectivement à partir d'un certain nombre de données collectées que les choses peuvent se faire. Encore faut-il utiliser les bonnes données et ne pas faire dire aux chiffres ce qu'ils ne peuvent pas ou ce qu'ils ne veulent pas dire. Quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant, sur lequel j'aurai aussi l'occasion d'insister, est-ce qu'au fond, une nouvelle donne de ces collectes statistiques ne serait pas d'essayer de mesurer de nouvelles pratiques ? Et un basculement qui est effectivement tout à fait important et auquel ceux et celles qui se confrontent à la question de la collecte des statistiques sont en quelque sorte en situation de s'affronter, c'est le basculement entre les pratiques physiques dans un bâtiment physique, la bibliothèque universitaire ou municipale, et puis effectivement l'usage d'un certain nombre de services en ligne. Et on peut effectivement dire qu'il y a un nouvel âge en quelque sorte de la collecte statistique lié à ces nouvelles pratiques. On explique bien, par exemple, dans les statistiques des bibliothèques universitaires allemandes, le moment de basculement où les pratiques, en quelque sorte, virtuelles l'ont emporté sur les pratiques plus traditionnelles d'emprunt ou d'utilisation des locaux. Quelques écueils, je pense qu'on peut les mentionner tout de suite. Un premier écueil, une première difficulté, parce que je crois que ça, c'est quelque chose dont il faut beaucoup tenir compte, c'est que dans les dispositifs statistiques ou évaluatifs que nous mettons en place, nous avons en face de nous des collègues, des responsables de services, des élus, qui sont sursollicités par toutes sortes d'enquêtes et de contrôles. Et que ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut prendre en compte pour essayer d'avoir des dispositifs les plus... j'ai envie de dire les plus efficaces et en même temps les plus légers possibles, faire en sorte que vraiment l'obligation statistique ne soit pas une épreuve extrêmement complexe, mais soit au contraire quelque chose de stimulant et de relativement simple à remplir, à effectuer. J'étais récemment dans une mission d'inspection dans des services communs de documentation et en l'espace de, c'était un peu les mauvais hasards du calendrier administratif, mais en l'espace de quelques semaines, les collègues avaient vu passer l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, l'inspection générale des bibliothèques, l'inspection des finances, que sais-je encore. Il y a un moment où effectivement les collègues nous disent, mais on a l'impression de ne pas faire notre travail et de passer notre temps à répondre effectivement à des enquêteurs. Donc là, il y a effectivement aussi sans doute des choses sur lesquelles il faudrait réfléchir. Ça renvoie bien sûr, de l'autre côté, pour les collègues eux-mêmes, à la nécessité de mettre en place vraiment des organisations internes fiables en termes de collecte statistique, de réunion d'éléments factuels pour pouvoir justement répondre très facilement à toute enquête qui peut se présenter. Là, c'est effectivement le professionnalisme des bibliothécaires comme manager, comme responsable de service public qui est en cause. Je pense que dans la formation même des bibliothécaires et des conservateurs, cette dimension de l'évaluation doit être quelque chose qui doit être pris en compte. Et puis, bien sûr, dernier point, arriver à constituer à réunir des résultats utilisables et utiles à la fois, je dirais, à ceux qui collectent, mais aussi à ceux qui sont collectés. J'aurai l'occasion d'en reparler. Alors, pour ne pas être trop long dans ce début de journée, j'ai pris trois exemples étrangers, deux sur lesquels j'insisterai un petit peu plus, mais je mentionnerai aussi au passage les travaux de l'Association internationale des bibliothécaires, l'IFLA, qui est aussi active sur la question de l'évaluation et des statistiques, puisqu'il y a même une section qui est en charge de ce problème. Alors, avec deux programmes qui me paraissent intéressants, un programme anglais qu'on va détailler un peu dans un instant, et puis le programme BIX, Bibliothèque Index, en Allemagne, qui est aussi une voie possible à suivre, ou en tout cas un exemple, une référence qui peut être intéressante pour nous. Alors, l'exemple anglais, il est intéressant parce que le souci des responsables ministériels et des services publics a été de passer d'un état des lieux statique, une collecte un peu lourde de chiffres, à une dynamique, et une dynamique qui soit vraiment stimulante. Et donc, l'idée, ça a été de collecter, de continuer bien sûr à collecter des chiffres concernant les bibliothèques publiques, mais en les assortissant de standards, c'est-à-dire de chiffres minimums auxquels on doit effectivement atteindre pour être considéré comme une bibliothèque qui est relativement performante. Donc, il y a eu un premier programme qui a été établi en 2001 avec une définition de standards minimums. Puis ensuite, en 2003, vous savez qu'il y a eu une grande campagne, en quelque sorte, en Angleterre, qui était Framework for Future, et qui a été l'occasion de redéfinir un peu les missions des bibliothèques publiques. Et à cette occasion-là, on a révisé ces standards minimums. Et puis, de nouveau, en 2006, et là, on est effectivement dans un work in progress, hein, des objectifs, des standards qui sont régulièrement actualisés, avec en particulier la question qui n'est pas encore totalement réglée chez nos amis anglais, mais ils sont en cours de le faire, sur la prise en compte effectivement de tous les usages virtuels, tous les usages liés au numérique dans les bibliothèques. La définition de standard minimum, au dire en tout cas de la prose un peu officielle qu'on peut lire là-dessus, a eu un effet assez décisif pour beaucoup de bibliothèques sur l'augmentation des horaires d'ouverture, sur la mise à niveau des collections, sur la généralisation des accès Internet, sur l'augmentation de la fréquentation et sur le taux de satisfaction des usagers. Donc, cette collecte dynamique, en quelque sorte, a vraiment eu un effet d'entraînement sur les bibliothèques. Bon, parallèlement, ne soyons pas naïfs, on sait très bien qu'en Angleterre, il y a eu aussi des coupes tout à fait importantes dans les budgets publics et que tout n'est pas forcément complètement euphorique chez nos voisins. Mais en tout cas, dans ce domaine de la collecte statistique, il me semble qu'il y a des voies qui sont intéressantes. Ce qui est important aussi et qui manque peut-être encore aujourd'hui dans notre pratique française, c'est que ces indicateurs sont toujours contextualisés par rapport à pour 1000 habitants, pour 10 000 habitants, par rapport à des situations concrètes données. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Alors, très rapidement, les dix standards définis, vous trouvez effectivement tout ça, il y a une prose abondante, hein, accessible par Internet. Un premier standard qui est la proportion d'habitants vivant à moins d'un ou deux miles d'une bibliothèque. Bon, c'est un indicateur qui est mis en avant. Un deuxième indicateur sur les horaires d'ouverture. Un troisième indicateur avec un pourcentage de bibliothèques fournissant des accès à Internet. Et là, l'objectif défini, c'est 100%. C'est-à-dire qu'on souhaite véritablement la cible minimum, en quelque sorte, c'est effectivement qu'il y ait des accès à Internet dans toutes les bibliothèques. Le nombre d'accès à Internet et catalogue pour 10 000 habitants, en tout cas par bibliothèque, là, on dit qu'il faut au moins 6 points d'accès par bibliothèque. Bon, c'est vraiment un minimum. Et puis un cinquième indicateur sur les réservations de livres par rapport à un stock donné, effectivement les taux de rotation des ouvrages calculés sur 7 jours, sur 15 jours, sur 30 jours. Et là, il se produit des chiffres qui sont intéressants en termes d'efficacité en fait, de la collection. Bien sûr, la fréquentation des bibliothèques rapportée à 1000 habitants, avec une prise en compte progressive de tout ce qui est visite virtuelle. Et puis alors là, deux indicateurs qui sont tout à fait innovants et qui mériteraient peut-être d'être revisités dans le contexte français, ce sont des indicateurs de satisfaction. Un premier indicateur pour les usagers de plus de 16 ans, et on leur demande de définir leur... Le service de bibliothèque qu'ils fréquentent comme très bon, bon, correct, pauvre ou très pauvre. Et l'objectif qui est avancé, c'est qu'il y ait 94% de réponses qui concluent à un service qui soit bon ou très bon. Et puis, même question, même enquête de satisfaction, cette fois-ci pour les usagers de moins de 16 ans, avec simplement trois items. Le service est bon, il est correct ou il est mauvais. L'objectif, c'est d'arriver à 90% de bon. En quelque sorte, cette implication des usagers par rapport à l'évaluation du service, bon, a sans doute ses limites, mais elle paraît effectivement une piste intéressante et quelque chose d'important. Et puis enfin, deux derniers indicateurs. Le nombre d'achats dans l'année pour 1000 habitants, donc avec un standard minimum qui serait de 216 pour 1000, et un dixième indicateur, alors là un peu plus complexe à construire, c'est le temps pris pour reconstituer en quelque sorte le fonds de prêt, et le standard ça serait 6,7 années. Donc ça c'est des choses sur lesquelles il faudrait rentrer effectivement beaucoup plus dans le détail, mais c'est des indicateurs qui sont relativement originaux et qui n'ont pas été pour l'instant pratiqués, à ma connaissance, en France. Ce qui est important aussi dans la démarche anglaise, c'est de faire en sorte de fixer des objectifs de collecte et des standards qui soient utiles aussi pour l'établissement dans sa propre gestion. Et qui ne soient pas seulement... je crois que c'est un peu la dichotomie qu'on a actuellement dans le système français, c'est que, ah oui, il y a les statistiques de la DLL ou du SLL qui arrivent, qu'est-ce qu'on va répondre, qu'est-ce qu'on va faire, mais en quelque sorte dans une rupture avec ce que devrait être une pratique évaluative à l'échelle de l'établissement. Et donc là, le souci anglais, c'est effectivement d'être utile, de faire d'une pierre deux coups, en quelque sorte, d'être utile à la fois en termes de collecte nationale, mais dans le même temps, d'engager vraiment une démarche évaluative dans chaque établissement et de donner, même à des établissements modestes, quelques outils d'évaluation facilement utilisables. Donc voilà pour la situation anglaise que je ne connais pas forcément dans le détail, mais qui, au moins de l'extérieur, me paraît effectivement une démarche intéressante. Cela dit, ce n'est pas parce qu'on a une collecte intéressante qu'on a forcément tous les moyens publics correspondants, et ça peut traduire aussi une situation relativement déprimée ou déprimante de la situation des bibliothèques dans un pays donné. Pour l'Allemagne, le programme Bibliothèque Index, l'Allemagne avait un grand dispositif de coopération, une sorte de service central des bibliothèques qui a été en partie démantelé. Et donc il a fallu retrouver en quelque sorte un système malgré tout d'évaluation, de signalement des ressources des différentes, de l'activité des différentes bibliothèques, à la fois pour les BM, et ce système a été mis en place en 1999, et pour les bibliothèques universitaires, c'est un système qui a été mis en place en 2003. Alors ce qui est original, c'est pour ça que je le mentionne ce matin, c'est que là, on n'est pas dans un dispositif d'obligation lié à des dispositifs réglementaires, comme c'est le cas en France, mais les Allemands ont clairement choisi de fonctionner sur le mode du volontariat. C'est-à-dire quels sont les établissements qui ont envie de se confronter à une démarche d'évaluation un peu fine. Et par exemple, en 2008, l'échantillon était de 170 bibliothèques municipales et de 83 bibliothèques universitaires. Ça peut paraître des échelles relativement modestes, mais ça peut produire aussi, en quelque sorte, par la dynamique qui est créée, des résultats plus complets, plus fins, et on retrouve un peu la notion de cohorte que j'évoquais tout à l'heure à propos d'un récent rapport de l'Inspection générale des bibliothèques sur les comparatifs internationaux en matière de bibliothèques universitaires. On retrouve bien sûr dans ce BIX, dans ce Bibliothèque Index, un certain nombre d'items tout à fait classiques et je ne vais pas y revenir. J'en ai quand même pointé quelques-uns qui me paraissent intéressants, en tout cas novateurs. Là, clairement, la question des services en ligne est abordée. Du côté du personnel, il y a effectivement deux indicateurs qui peuvent faire un peu sourire, mais qui sont, à mon sens, tout à fait intéressants. C'est le taux de formation continue sur une année du personnel. Donc, effectivement, est-ce qu'on a en face de nous des animateurs de l'établissement qui sont vraiment possesseurs de connaissances professionnelles actualisées et donc à même de produire des services plus performants? Et de la même manière, le taux de renouvellement du personnel. Donc, est-ce qu'on est dans des situations très sclérosées ou au contraire, est-ce qu'il y a de nouveaux collaborateurs? Est-ce qu'il y a des compétences pointues qui arrivent dans l'établissement? On voit bien là une démarche qui, effectivement, peut-être plus regarde davantage du côté du secteur privé que de notre image un peu traditionnelle de la fonction publique. Autre indicateur qui est intéressant, c'est effectivement la question des dépenses d'investissement. Les statistiques sont souvent plus centrées sur le fonctionnement des établissements et donc les moyens de fonctionnement qui sont mis en œuvre. Là, effectivement, la question des dépenses d'investissement, ça signifie aussi qu'on essaie d'avoir un regard pluriannuel, un regard un peu prospectif sur le développement d'une structure. Effectivement, une structure qui n'investit pas ou très peu, ça peut produire à terme des conséquences négatives sur la qualité du service et, de fait, sur les résultats de fonctionnement dans les années qui suivent. Et puis, là aussi, en Allemagne, la question du renouvellement des fonds qui est également abordée, comme c'était le cas en Angleterre. Un dernier point, c'est l'établissement d'un top 5 ou d'un top 10, d'un classement pour chaque item. Et donc quelque chose où on essaie de mettre en avant des établissements qui sont particulièrement performants dans un domaine ou dans un autre. Je ne suis pas sûr que ça fasse entièrement partie, pour l'instant, de notre culture bibliothéconomique française, mais ça pourrait effectivement, dans certains cas, avoir un effet stimulant. Et mon Dieu, on pourrait peut-être aussi relier certaines aides ou certains encouragements, en quelque sorte, budgétaires, pourquoi pas, à la qualité des services qui sont développés. Dernier point, et je passerai vite dessus, c'est le programme Global Library Statistics qui est mis en place à la fois par l'IFLA et l'UNESCO. C'est le constat que j'évoquais tout à l'heure à propos des travaux de feu le Conseil supérieur des bibliothèques, le constat qu'on n'arrive pas, dans les circonstances actuelles, à collecter des résultats internationaux vraiment pertinent, sachant qu'il y a un certain nombre de pays, de toute façon, qui auraient bien du mal à en fournir, compte tenu de la faiblesse de leur appareil administratif ou du niveau de développement de leur bibliothèque. Et donc l'IFLA tente de mettre en place, en quelque sorte, un cadre qui permette à l'ensemble des pays de donner des informations statistiques et donc de permettre de produire une statistique globale à l'échelle mondiale en matière d'activité à la fois des bibliothèques municipales et des bibliothèques universitaires. Donc il y a, vous trouverez facilement sur le site de l'IFLA les 23 indicateurs qui ont été dégagés, avec là effectivement des aspects de contexte, liens au nombre d'habitants, chiffres moyens, et sur ces 23 indicateurs, 15 qui sont réservés effectivement pour les bibliothèques de lecture publique, les bibliothèques, en particulier les bibliothèques municipales, avec 5 grandes rubriques. Bon, là on est dans quelque chose de très classique, des choses liées à l'accès, que ce soit l'accès à Internet ou les horaires d'ouverture des bâtiments, les collections, le décompte des usagers, les questions liées au personnel, les questions liées aux dépenses d'acquisition. Donc c'est un programme qui est effectivement en cours d'établissement et qui sera nécessairement, compte tenu du nombre de partenaires, très long à mettre en place. J'arrive tout de suite à quelques mots de conclusion très provisoire, puisqu'on est en début de journée et que tout ça va être revisité par les, et éventuellement contredit, ce qui serait une très bonne chose, par les interventions des uns et des autres. Si on revient à une perspective peut-être plus française, je pense qu'il y a une obligation pour les administrations centrales de redonner du sens à une obligation, c'est-à-dire faire en sorte que cette obligation réglementaire qui a valeur, qui a effectivement un intérêt qu'on connaît très bien, il faut peut-être lui redonner de la perspective, lui redonner du sens, et peut-être avoir un système, mais là c'est vraiment une suggestion tout à fait personnelle que je peux faire, avoir éventuellement un système à deux vitesses, un système, je dirais, un peu basique qui essaie d'être le plus large possible en termes de collecte, et puis proposer à certains établissements un contrat plus dynamique, un peu sur le modèle de Bix, pour des cohortes, en quelque sorte, d'établissements qui souhaiteraient s'engager dans quelque chose de plus complexe, de plus innovant, de plus stimulant aussi dans leur pratique. Faire en sorte de faire apparaître à travers cette collecte statistique des nouvelles tendances d'usage et de nouveaux services, c'était au fond un peu ce qu'avait fait émerger la fameuse enquête du Crédoc sur la fréquentation des bibliothèques. Et puis un souhait là qui est assez personnel, mais c'est peut-être lié à mon âge. Certes, il faut publier des résultats en ligne et c'est important, mais je pense que des publications papier régulières, peut-être pas forcément annuelles, sont extrêmement précieuses. Et je peux mesurer par expérience personnelle à quel point les petites brochures que produisait en son temps la direction du livre étaient particulièrement lues, particulièrement utilisées, qu'elles étaient vraiment une épée de chevet et un manuel au sens d'Épictète, utilisable avec des élus, avec des collègues, et que ça, je pense qu'il faut peut-être y songer, et en particulier en publiant à la fois des résultats chiffrés, mais aussi des éléments de commentaires. Ça ne sert pas à grand-chose de collecter des statistiques si, effectivement, on ne fait pas parler les chiffres. Et je crois que c'est un des enjeux qui est devant nous en matière à la fois de statistiques et d'évaluation. Merci de votre attention.
Écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc, j'ai bien pris note de la suggestion faite au service du livre d'envisager de publier à nouveau les bilans statistiques commentés. Je voulais en tout cas vous remercier pour cette introduction qui, je crois, ouvre en tout cas plusieurs pistes pour la réflexion de cette journée, en particulier sur la nécessité de contextualisation systématique des données, mais aussi de travail en amont entre les différents collecteurs afin de ne pas demander 50 fois la même chose. Vu l'heure, sauf s'il y a vraiment une question extrêmement pressante pour Dominique Haro, je voulais vous proposer de basculer directement sur l'intervention suivante, qui est celle de Pierre-Yves Renard, qui est responsable, à qui je propose de venir se joindre à moi. Qui est donc Pierre-Yves, qui est donc responsable de la bibliothèque de l'INSEE et président de la commission de normalisation AFNOR CG46 CN8. qui va nous parler des normes ISO 2789 et ISO 11620. Donc je suis sûre que vous êtes tous farouchement convaincus de l'intérêt de ces normes. Pierre-Yves va avoir la lourde tâche de nous montrer qu'elles sont en plus attrayantes et de nous donner envie de nous plonger dedans. Donc je te laisse la parole, là encore, un tout petit peu moins d'une demi-heure, ce serait bien.
Je vais essayer de resserrer.
Merci beaucoup.
Merci. Il me revient souvent le difficile privilège de parler des normes qui sont en effet un sujet assez technique et pas forcément très propice au développement lyrique. Mais justement, je me souviens de la première fois où j'ai manipulé ces normes-là, c'était il y a une douzaine d'années. Et en fait, je me demandais comment on pouvait bien aborder le sujet, comment on pouvait bien s'en servir, comment ça pouvait bien fonctionner. Et dès lors, je me suis dit que finalement, le problème, c'était moins de prendre la norme et de la lire que d'avoir quand même un certain nombre d'éléments de contexte pour, quand on la reçoit, quand on l'a devant soi, on soit moins surpris, on sache un petit peu ce qu'on a entre les mains et comment ça fonctionne. Alors, je suis heureux d'être là aujourd'hui parce que j'ai plutôt l'occasion de présenter ces normes devant un public académique, universitaire, moins souvent en lecture publique. Je ne sais pas si ça traduit une pénétration des normes différente entre ces deux milieux, mais donc c'est une bonne occasion aujourd'hui. Alors, j'ai intitulé mon intervention « Des outils en évolution pour l'observation et l'évaluation », d'abord parce que c'est difficile à dire, mais aussi parce que c'est vrai, les normes sont vraiment des outils. J'y reviendrai ensuite. Et donc, on retrouve cette distinction dans ISO 2789 sur les statistiques internationales de bibliothèques et ISO 11620 sur les indicateurs de performance. On retrouve cette distinction entre l'observation, les statistiques, et puis de l'autre côté, la performance, l'évaluation. Alors, c'est le fruit de l'histoire, parce que c'est vrai que dans le milieu des bibliothèques, on a commencé par compter, par répondre à des enquêtes nationales, par faire du contrôle a posteriori, mais comme dans toute activité publique. Et puis, c'est seulement donc on a développé une norme au sein de l'ISO sur les statistiques. Et puis, dans un deuxième temps, on s'est dit, mais ça serait bien d'aller plus loin, de faire de l'évaluation avec ce fameux triangle de l'efficacité, de l'efficience et de la pertinence. Mais voilà, on est un petit peu contraint par ce cadre existant, par d'un côté cette norme sur l'observation et de l'autre sur l'évaluation. C'est un petit peu un carcan quand même. Donc je vais essayer de vous montrer comment on peut en sortir. Donc on rejoint le sujet général de la journée parce que c'est vraiment une certaine forme de coopération qui permet d'aboutir à l'élaboration de la norme, je vous en dirai un mot. Ce sont des outils à partager et on a pu travailler en particulier avec le SLL sur l'alignement autant que possible au niveau national des enquêtes et des définitions utilisées au niveau national sur ce qu'il y a dans les normes internationales. Et puis quelque chose sur lequel je vais revenir assez, pas longuement, j'ai peu de temps, mais je vais revenir dans un premier temps, c'est que vraiment ces normes, leur utilisation ne peut pas être distincte du contexte institutionnel. Et je reviendrai sous un autre angle sur pas mal d'aspects que Dominique Arrou a présenté dans son panorama qui était déjà très détaillé. Alors je vais commencer par me tirer une balle dans le pied, mais ça ira mieux après. La normalisation, ça suppose du temps parce que ça se fait au niveau international. Je ne vais pas vous présenter aujourd'hui la façon dont les groupes fonctionnent, dont le formalisme ISO est quand même censé faire fonctionner tout ça, mais ça prend du temps. Et aujourd'hui, les bibliothèques, elles évoluent plutôt rapidement. Donc on a déjà une première tension entre l'état de la norme à un moment donné, même si les choses vont beaucoup mieux, il faut quand même 3 ans pour sortir une norme, et les bibliothèques, elles évoluent vite. Un des paradigmes de l'ISO, c'est le consensus. Il faut obtenir un consensus international. Il faut que 5 pays membres soient d'accord pour ouvrir un nouveau sujet ou pour ouvrir une révision de normes. Il faut ensuite qu'au sein des discussions dans les groupes de travail, le consensus se fasse. Et d'un autre côté, on a des bibliothèques qui, on le voit bien au jour le jour, évoluent dans des directions différentes, accentuant certains aspects, travaillant, je dis n'importe quoi, plutôt sur les collections, la ressource, comment améliorer le contact entre l'utilisateur et ses ressources. D'autres développant des actions de médiation culturelle, en s'ouvrant vers d'autres secteurs de la culture. Voilà, tout, on évolue tous dans des secteurs et dans des directions différentes. Voilà, deuxième tension. Et puis la normalisation suppose du recul. On ne peut pas inscrire dans une norme ISO quelque chose qui ne serait pas vraiment solidement mesurable pour les normes qui nous intéressent. Et les bibliothèques, elles avancent de façon expérimentale. On teste quelque chose, ça marche, ça ne marche pas. On mesure localement ce qu'on a fait, mais de là à l'inscrire dans une norme, c'est compliqué. Et aujourd'hui, la norme ISO 27-89 est en cours de révision. On se confronte vraiment à ces problèmes d'expérimentation dans les bibliothèques et de manque de recul pour pouvoir l'inscrire. Alors bon, il y a vraiment des tensions. Je ne sais pas comment on va pouvoir en sortir vraiment dans l'élaboration de la norme, mais il y a ces tensions-là. Bon, néanmoins, on peut faire quelque chose de ces outils, c'est ce que je vais essayer de vous dire. Je passerai très rapidement, mais voilà, on a un cadre et des outils. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas la peine de s'emparer de ces normes si on n'a pas une conscience du cadre politique et administratif dans lequel les bibliothèques évolue aujourd'hui, quoi. C'est ce que je dis souvent quand j'ai plus de temps pour faire des cours là-dessus. C'est il faut, si vous n'avez pas un projet d'évaluation, si vous n'êtes pas dans une dynamique dans votre établissement d'évaluation, c'est pas la peine d'utiliser ces normes. Ces normes ne sont que des outils pour les bibliothèques. Ce n'est pas une méthode, hein, c'est pas un guide. Il faut déjà que vous ayez une certaine organisation, une certaine démarche pour pouvoir utiliser efficacement ces normes. C'est vrai que si vous n'avez pas, c'est ce que disait Dominique Haroux, quoi. Pourquoi collecte-t-on si vous n'avez pas déjà un cadre de travail au départ? C'est pas la peine d'utiliser ces normes pour dire elles vont me dire quoi faire. Ça, c'est très clair. Et puis, autre aspect de contexte qui me semble important, c'est que la bibliothèque vit aujourd'hui ce que je dis, sous le double régime de la performance et du storytelling. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, le régime de la performance, on le connaît, on doit rendre compte. La légitimité de la bibliothèque n'est plus une donnée, elle doit être démontrée régulièrement. C'est l'organisation et les visées de l'État aujourd'hui que de s'assurer que ces services sont performants. Donc on vit dans ce contexte-là, on le reçoit, on vit avec. Mais dans le même, alors ce qui nous demande d'objectiver toujours notre activité, on doit pouvoir rendre compte le plus précisément possible. Et dans le discours sur l'évaluation, il y a cette dimension de rendre compte le plus précisément possible de la réalité. Mais d'un autre côté, on vit aussi sous le régime du storytelling. C'est le mode de communication qui s'impose à l'administration, à savoir que on n'est plus dans la démonstration, mais dans la narration. Il faut qu'on raconte une histoire. Donc en fait, les bibliothèques, à mon avis, sont prises dans une sorte de tension. Il faut à la fois objectiver son activité, rendre compte de la réalité le mieux possible, et puis en même temps se montrer sous son meilleur jour, choisir les bons chiffres qui racontent la bonne histoire. Et donc la grande question, c'est qu'est-ce que les chiffres que vous récoltez vont raconter comme histoire? Alors je vous explique ce schéma un peu abscon. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'ancien modèle, je ne vais pas m'étendre, l'ancien modèle de bibliothèque n'existe plus, mais nous ne savons pas ce qu'est le nouveau modèle de la bibliothèque. Et peut-être même qu'il n'y aura pas de nouveau modèle de la bibliothèque. On a peut-être quitté le port, mais il n'y a pas de destination. Donc c'est là que les chiffres prennent toute leur importance, parce que qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter avec les chiffres qu'on collecte? Si on s'en tient classiquement à une activité tout à fait importante et qui demeure centrale, si on s'en tient au stock de livres, au prêt, à ces activités-là, invariablement, pour les décideurs à qui on va exposer ce genre de résultats, on donnera l'impression que la bibliothèque est un entrepôt qui fait de la logistique. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver comme chiffre aujourd'hui pour montrer qu'on fait des choses modernes? Parce que c'est ça qu'il faut qu'on montre aussi. Même si on est bien d'accord que toutes nos missions restent légitimes, mais on est dans ce jeu de communication, quoi. Alors comment les normes vont pouvoir nous aider? C'est problématique. Aujourd'hui, on est en train de réviser la norme ISO 27-89 sur les statistiques de bibliothèque. Au niveau français, on s'est réunis et bon, je n'ai pas pu aller les porter personnellement, mais on a produit un certain nombre de documents pour dire bon, voilà, il faut pouvoir sortir des données sur la façon, sur les nouvelles missions, sur les nouvelles actions des bibliothèques qui aujourd'hui, dans la norme qui date de 2006, qui n'est pas très ancienne, ne sont pas bien pris en compte. On a travaillé en particulier sur la question des services de référence en ligne et les services de référence de plus en plus collaboratifs entre établissements. Il y avait 3 lignes dans la norme là-dessus. Or, aujourd'hui, pour beaucoup d'établissements, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est des personnels qui s'investissent. Donc, à partir du moment où vous engagez beaucoup d'argent, où vous engagez beaucoup de personnel dans une activité, il faudrait que la norme puisse donner un cadre de calcul assez stable pour rendre compte de cette activité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, on a fait une proposition de définition plus claire des services de référence en ligne. On a fait des propositions pour que, justement, dans la partie de la norme qui se consacre à la ventilation des crédits ou à la ventilation des effectifs, on puisse avoir une entrée service de référence en ligne, etc. Bon, tout ça a été pas mal malaxé lors de la dernière réunion à Berlin au mois de mars. Je ne sais pas s'il en reste grand-chose aujourd'hui, mais vous voyez, dans l'élaboration de la norme, il y a toujours un combat comme ça. Je prendrai un autre exemple, la question des utilisateurs. Dans la norme, je crois qu'on peut dire qu'on traîne une définition de l'utilisateur qui est très ancienne. Au début, l'utilisateur, c'est celui qui est inscrit à la bibliothèque et qui emprunte. Donc, on a une définition de l'utilisateur qui est celui qui accède au service de la bibliothèque. Et puis, on a une définition, j'espère ne pas me tromper, il y a d'autres spécialistes de la norme dans la salle. Il y a une définition de l'utilisateur inscrit. Il y a une définition de l'utilisateur actif qui est utilisateur inscrit qui a fait au moins une opération de prêt dans l'année. Il fallait quand même essayer de nettoyer un petit peu tout ça. Donc on a fait là aussi une proposition en disant l'utilisateur aujourd'hui, le problème c'est pas qu'il soit inscrit ou pas. Il y a des utilisateurs. Quand bien même on a un séjourneur, comme certains l'appellent, eh bien il vient utiliser un lieu qu'on a aménagé aussi pour les séjourneurs, sur lequel on a réfléchi, sur lequel on a travaillé. Donc un utilisateur qui n'est que séjourneur, il est utilisateur de la bibliothèque. Donc on propose plutôt de partir sur une définition plus large de l'utilisateur. L'utilisateur, c'est celui qui va ou qui utilise la bibliothèque. Et après, on peut distinguer les choses. Il est identifié ou pas. Il peut être seulement identifié pour un service électronique particulier. Il a donné son adresse électronique pour pouvoir y accéder. Et puis, il n'est pas forcément inscrit pour le prêt à côté si les systèmes ne sont pas interconnectés. Donc voilà, on a essayé de proposer quelque chose d'à la fois plus simple et puis qui laisse des marges à l'intérieur pour dire je veux continuer à compter les inscrits ou pas, etc. quoi. Mais tout cela, c'est ce que j'explique dans ce cercle. On a des idées qui reviennent du terrain, et c'est pour ça que la construction de la norme est quelque chose de collaboratif, de coopératif. Ce sont quand même des hommes et des femmes qui travaillent dans les bibliothèques, qui se retrouvent au niveau international, mandatés par les organismes de normalisation nationaux, qui travaillent sur ces normes. Et dernier exemple, on a que j'évoquais tout à l'heure, on a travaillé avec le SLL qui, en rebalayant les formulaires de la DLL, s'est rendu compte que les normes ne permettaient pas de poser toutes les questions qu'il fallait dans le formulaire. Donc, en retour, nous avons proposé à l'ISO au niveau international qu'un certain nombre de subdivisions, qu'un certain nombre d'activités soient prises en compte dans la norme et qu'ensuite toutes les bibliothèques puissent en profiter. Ça a porté en particulier sur l'action culturelle et l'action, je dirais, hors les murs, en coopération. Là, il n'y avait rien dans la norme pour parler de cela. Et pourtant, toujours la même chose, ça prend beaucoup de temps aux bibliothécaires et ça prend beaucoup sur le budget des bibliothèques aussi. Donc à partir du moment où ça nous utilise du budget et du temps, il faut pouvoir en rendre compte de façon cadrée à un moment ou à un autre. Donc c'est le travail qu'on essaie de faire avec l'ISO en aller-retour, avec forcément des présidents de groupes de travail qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Quand on essaie de parler de l'activité de recherche ou de recherche-action dans les bibliothèques, qui passe par les blogs, qui passe par, pas forcément par une communication formelle, un jour donné, une date donnée. Comment on rend compte de tout ce qui se passe sur les blogs et qui fait partie maintenant de l'activité professionnelle des bibliothécaires? Présentement, la présidente du groupe aujourd'hui ne veut pas vraiment en entendre parler. Le seul indicateur de la participation de la bibliothèque à la recherche, ça va être le nombre de publications ou le nombre de présentations dans des journées formelles, etc. Donc voilà, il y a des négociations qui se foncent. On ne fait pas toujours passer tous les messages qu'on veut, mais voilà. J'en viens à la norme. Si je ne devais dire qu'une chose, je dirais que l'important, ce n'est pas de compter, mais de définir ce qu'on doit compter. La partie la plus importante de la norme, c'est la première partie, qui sont les définitions. Et je vous en ai déjà donné des exemples. Qu'est-ce qu'un utilisateur ? Qu'est-ce qu'une bibliothèque ? En France, on a 4000 bibliothèques ou 17000 bibliothèques municipales, comme disait Dominique Haro. L'important, déjà, c'est de définir ce qu'on fait. Ensuite, compter, ce sera assez simple. Mais le gros travail, c'est la définition. Donc, la première partie de ISO 27089 comporte des définitions qui sont classées en 6 grandes rubriques : bibliothèque, collection, usage et usagers, accès et équipement, dépenses et personnel. Donc vous aurez des tableaux très précis sur le prêt direct à un utilisateur, le prêt, le PEB, le prêt d'une ressource électronique, le prêt où la bibliothèque ne sert que d'intermédiaire entre un tiers fournisseur et l'utilisateur. Donc vous aurez, si vous avez besoin d'établir une classification et un comptage très précis de la façon et des objets que vous prêtez, la norme peut vous aider. De la même façon, bon, jusqu'à présent, je me suis montré assez critique ou distancié sur la norme, mais néanmoins, sur la collection, vous avez des choses extrêmement précises et cadrées pour compter vos collections, pour compter vos usages, pour compter les accès et les équipements, de manière cohérente sur l'ensemble des bibliothèques qui utilisent la norme. Sachant que cette norme, au départ, est une norme internationale dont l'objectif était justement de fournir à l'UNESCO un petit jeu de données assez resserré, pour justement pouvoir assurer une collecte et une comparativité d'un pays à l'autre et d'un continent à l'autre. Et puis, c'était en 70-74, il y avait 4 pages dans la norme, et au fur et à mesure, maintenant, on est sur un document de 100 pages qui est censé, ça a d'ailleurs servi à ça toujours, pouvoir donner un petit jeu de données à l'UNESCO et à l'IFLA pour de grandes enquêtes internationales, mais aussi servir au niveau national pour les enquêtes nationales et servir dans les établissements. Donc, forcément, on a beaucoup de choses dans cette norme qui ne sont pas forcément cohérentes entre les besoins locaux d'une bibliothèque donnée et puis les besoins internationaux, mais voilà, c'est à la fois l'intérêt et la limite de cette norme-là. Ensuite, après la partie définition, vous avez quelques passages sur quelques phrases rédigées sur les avantages et les limites d'utilisation des statistiques, rien de révolutionnaire. La façon de les présenter, et puis la collecte des données statistiques, ça c'est intéressant, ça reprend la façon dont on compte effectivement ce qu'on a défini dans les 6 premières sous-parties, bibliothèque, collection, usage, etc. En l'état actuel de la norme, il y a une annexe sur l'utilisation, la mesure de l'utilisation des services électroniques, qui n'était pas très mûre à l'époque en 2006, mais qui a vocation, là, dans la refonte, à intégrer le corps de la norme lui-même, parce qu'on ne peut plus se contenter d'avoir quelque chose seulement en annexe sur le sujet. Et puis l'annexe B est intéressante, des catégories complémentaires recommandées pour compter votre collection selon la classification thématique de l'UNESCO, comment découper plus finement votre public, comment compter plus finement éventuellement les opérateurs, les associations avec lesquelles vous faites du partenariat, etc. C'est des choses qui peuvent être utilisées au niveau national. 11620, donc là on est, je vous le disais, sur cette dichotomie statistique-évaluation, mais bien sûr dans la pratique quotidienne, c'est pas comme ça qu'on doit penser. Là aussi, il s'agit vraiment d'un guide très pratique, ça vous donnera pas la méthode pour mener une évaluation, la méthode pour monter un tableau de bord, ça vous donnera la méthode pour calculer et mettre en œuvre des indicateurs. C'est vraiment, est-ce que les indicateurs que je produis sont valides ? Et puis on a derrière un ensemble de une annexe où l'essentiel, plusieurs dizaines d'indicateurs sont eux décrits précisément selon la méthode. Donc là aussi, cette norme-là, selon le formalisme ISO, commence par le domaine d'application de la norme, toutes les bibliothèques, sachant que c'est quand même très orienté bibliothèques universitaires, bibliothèques académiques, bibliothèques nationales un petit peu aussi, du fait des participants au groupe de travail. Ce n'est pas des documents qui sont originellement orienté lecture publique, je dirais. Et d'ailleurs, pour des établissements type BDP, etc., je pense qu'on n'a pas, d'indicateur très pertinent dans les annexes de cette norme, quoi. Donc ça, c'est quand même un manque, quelque chose à faire remonter. Mais tout dépend de l'investissement de chaque pays et des experts de chaque pays, quoi. Ça, c'est un petit peu compliqué. Références normatives, ce sont les normes auxquelles cette même norme se réfère. Définition, là aussi, vous avez des définitions complémentaires. Alors, ce pourquoi on lutte, c'est qu'entre ISO 27089 et ISO 11620, on est les mêmes définitions. Parce que moi, quand je me retrouve devant un public à leur dire que si vous faites des statistiques, vous utilisez certaines définitions, et si vous faites de l'évaluation, vous en utilisez d'autres, c'est un petit peu compliqué. Mais même ce genre de message est difficile à faire passer parfois. Je vais un petit peu trop vite. Ensuite, vous avez, ça c'est intéressant, les critères de recevabilité et le cadre de description des indicateurs. Ça vous dit vraiment comment construire des indicateurs valides. Si vous avez une idée d'indicateur, ça vous propose tout un tas de tests pour voir s'ils sont vraiment pertinents. Ça, c'est intéressant. Et puis, les indicateurs sont effectivement décrits. Vous pouvez construire vos propres indicateurs sur la base de la méthode décrite par la norme, mais vous pouvez aussi utiliser ceux qui sont déjà décrits pour vous, qui ont fait l'objet de tests, qui ont fait l'objet de publications dans la littérature spécialisée, etc. Et puis une bibliographie à la fin. Vous avez, donc je reviens très rapidement sur le cadre de description des indicateurs dans la norme. Un indicateur, il a un objectif. Je l'utilise, je le mets en œuvre, je le mesure pour telle raison précise. Il a un domaine d'application, soit il peut être utilisé par toutes les bibliothèques, soit il ne peut être utilisé que dans ma bibliothèque pour des besoins particuliers. Il a une définition, il a une méthode de calcul, il y a une interprétation des résultats qui suit pour éviter les mauvaises interprétations. Il y a les sources et puis il y a les indicateurs associés, évidemment, si vous avez des prêts très élevés, alors le taux de disponibilité des ouvrages, lui, sera beaucoup plus faible, etc. Il faut pouvoir lire chaque indicateur en fonction d'autres. Je finis sur la grande famille des normes. Ça, ce sont les deux principales, les deux basiques, mais sous l'impulsion de la présidente du sous-comité 8 qualité et évaluation des résultats à l'ISO, il y a beaucoup d'autres sujets qui ont été ouverts sur les bâtiments de bibliothèques. Alors là, on est vraiment à la limite entre statistiques et puis quelque chose qui ne serait plus vraiment de notre secteur, mais c'est sur la base d'une norme allemande qui reprend le cœur de cette norme, c'est le nombre de mètres carrés dont vous avez besoin pour stocker vos livres selon leur taille, selon leur volume, selon que vous avez des DVD, selon que vous avez des CD, selon que vous avez des rayonnages compacts, selon que c'est du libre accès, etc. Là-dessus sont venus se greffer des considérations sur la lumière, sur le son, sur les espaces de lecture, etc., sur le nombre de mètres carrés du bureau du directeur, etc. etc. Vous avez un autre sujet important sur sur la collecte du web et sur la collecte du dépôt légal, les statistiques de la collecte du web qui est en train de monter. Et il y a un nouveau groupe qui va sans doute s'ouvrir sur l'impact des bibliothèques. Je dirais que c'est le troisième étage de la fusée dans cette vision classique, mais un peu carcan. Statistiques, évaluation, impact sur la société de nos services. Alors, nous, on aimerait au niveau français, mais faut qu'on pousse plus, on aimerait quand même que toute cette structuration de normes soit changée, un petit peu à l'image de ce qui se fait pour le records management, où ils sont vraiment où ils veulent aligner la structuration de leurs normes sur un système de management à l'image des normes ISO 9000 ou ISO 14000. Nous, on reste dans ce carcan, statistiques, évaluation, impact. Il faudrait tout reprendre depuis le début. On a raté l'occasion au moment de la révision d'ISO 27089. On a porté ces arguments-là, mais la présidente a dit non, fermez le banc, quoi. Donc, il faudrait, à un moment ou à un autre, pouvoir reprendre ce dossier à la base, avoir une norme vraiment sur les définitions, les processus, qu'est-ce qu'on fait, à quoi on joue, et puis des sous-normes, je dirais, plus techniques sur comment on mesure, comment on fait des indicateurs, comment on fait une enquête, comment on peut mesurer l'impact de la bibliothèque. Mais ça, voilà, ça c'est les limites de la normalisation internationale et de notre participation à ce genre de travaux. C'est terminé.